Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Doradio, Doradio, la radio de Haute-Garonne. Et bien sûr, avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, on est ravis de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même de l'autre côté du poste. Voilà, on est le mardi 13 janvier 2026, ça vous le savez déjà. Mais juste avant de vous annoncer le sommaire, voilà, on rappellera quelques prérogatives de l'ARCOM. Voilà, donc on peut nous suivre par la bande FM, le 91.3, par le site odoradio.fr également, qui vous permet de venir de réentendre, voire télécharger toutes nos émissions. Et troisième moyen pour nous suivre, c'est le DAB ou le DAB+, cet acronyme en anglais dans le texte, qui veut dire que la radio est numérique terrestre. Donc il faut bien sûr, ça tombe sous le sens, avoir le poste récepteur adéquat et être en métropole bordelaise. Et voilà, je pense avoir cité les trois moyens de nous suivre. Pour le sommaire de ce journal en ce mardi 13 janvier, c'est Eliott qui va nous décliner quelques brèves d'infos pour ouvrir ce journal d'ici quelques instants. Juste en suivant, on aura quelques mots de monsieur le maire de Florac, Jean-Jacques Puy-Aubrot. C'était lors de la cérémonie des vœux vendredi dernier à l'espace Sucy Aubrac. Nos invités du jour, Maureen Adnise, vont nous parler bien du mois de la danse, hein, qui va durer un petit peu plus qu'un mois, avec plein de rendez-vous, des stages, des spectacles. Pour la partie musicale, eh bien Astels, voilà, je ne sais pas si je viens à prononcer, en tout cas c'est un groupe français, voilà, même s'ils chantent en anglais, c'est histoire de mettre en avant, eh bien, la New French Touch. Je me suis entraîné pour l'accent, troisième édition, voilà, ce sera au Salon de musique du Rocher de Palmer le 23 janvier, et là on écoutera un extrait de Astels, donc, et comme tous les mardis, ça c'est ma phrase d'introduction, là ils ont eu quand même quelques jours de repos mérités, nos jeunes reporters européens, nos jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes européennes. Donc voilà, ils reviennent aujourd'hui. Alors ils ont choisi, même pour le titre, c'est en anglais, mais Nicolas qui est sympathique m'a traduit. Donc il y aura sur le magazine tout à l'heure à 12h30 un review, voilà, si je vous assure, de l'Europe 2025 et en prévu pour 2026 en fonction, voilà, des pays d'origine de nos jeunes ambassadeurs, jeunes reporters du jour. Voilà, je crois qu'on a été complet pour le sommaire. Et en ce qui concerne notre journal, en ce mardi 13 janvier, tout de suite, c'est Eliott qui va nous décliner quelques brèves d'infos. Bonjour Eliott.
Bonjour Joël et bonjour à toutes et à tous. Nouveau règlement des terrasses et étalages à Bordeaux. Ce dispositif, fruit de plus de 3 années de concertation avec les commerçants, les riverains et les associations, vise à mieux gérer l'espace public bordelais. Il doit concilier attractivité commerciale, qualité de vie urbaine, accessibilité et réduction des nuisances sonores. Ce cadre, qui est entré en vigueur hier, lundi 12 janvier, a été élaboré pour porter plus de clarté et de stabilité aux professionnels et aux habitants, tout en préservant l'esthétique de la ville. Côté mobilité et infrastructure, les préparatifs se poursuivent pour le démarrage des travaux d'une nouvelle passerelle piétonne et cyclable sous le pont François Mitterrand, dont l'objectif est de faciliter les déplacements doux entre les deux rives de la Garonne. Ce projet, structurant d'un coût de près de 12 millions d'euros, doit améliorer le maillage des pistes cyclables et renforcer les liaisons piétonnes pour tous les habitants de la métropole. Dans la région, on note également un retour de la circulation normale sur l'A63, après la levée d'un barrage installé par les agriculteurs à Cestas à la fin de l'année dernière. Cette mobilisation avait fortement perturbé l'accès entre Bordeaux, le bassin d'Arcachon et le Pays Basque, avant que les manifestants ne décident de se retirer pour la nouvelle année. Ce soir, rendez-vous au Grand Théâtre de Bordeaux pour le concert Bordeaux 18e, une performance musicale baroque réunissant les élèves de la classe de musique ancienne du conservatoire de Jacques Thibault. Une belle soirée placée sous la signe du patrimoine et de la musique classique, gratuite et ouverte à tous à 20h dans le salon Boireau. Point circulation. Le pont d'Aquitaine de Bordeaux sera fermé à la circulation la nuit du 13 au 14 janvier en raison de travaux de maintenance. Cette interruption routière concerne l'ensemble du trafic entre certains échangeurs. Des déviations devraient être mises en place et les pistes cyclables resteront ouvertes pour les déplacements doux. Un projet colossal vient d'arriver à Bordeaux. Il s'appelle BXIA, un futur supercalculateur et campus d'intelligence artificielle installé sur près de 20 hectares au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Porté par un collectif d'acteurs français, le site réunira un immense data center et une usine de calcul informatique destinée aux entreprises et à la recherche. L'objectif est clair, créer un pôle numérique souverain et indépendant des géants américains, chinois, capables d'héberger et de traiter les données sensibles en Europe. Le projet représente plusieurs milliards d'euros d'investissement et une puissance électrique équivalente aux 2/3 de la consommation de Bordeaux. Et pour finir, nous sommes rendus le vendredi 9 janvier à la salle polyvalente Lucie Aubrac, située à Floirac, où le maire Jean-Jacques Puy-Aubrot a souhaité ses vœux aux Floraquais et Floraquaises. On l'écoute tout de suite.
Monsieur le maire, Jean-Jacques Pouillobreau, vous l'avez dit, et pour être honnête avec nos auditeurs, nous sommes en pleine réserve électorale. Alors, vous avez souhaité faire vos vœux à la population de Florac, aux habitants et habitantes. Qu'est-ce que vous leur souhaitez ?
Alors, je souhaite aux corps constitués, que ce soit le monde de l'entreprise, le monde de l'artisanat, du commerce sportif, associatif, mais je leur souhaite le meilleur pour l'année 2026. Je souhaite qu'ils puissent réaliser leurs projets, hein, collectivement, bien entendu, de telle sorte que, ben, écoutez, toutes celles et ceux qui sont bénévoles dans les associations, que les commerçants, que les artisans, que les entrepreneurs puissent, effectivement, dans une conjoncture délicate, hein, trouver un chemin, hein, possible pour développer leur activité. Voilà, en fait, je souhaite le meilleur à toutes et à tous, bien entendu.
Merci. Vu qu'on pouvait moins parler de national, enfin, ou de local, vous avez plutôt parlé aussi d'international. Qu'est-ce que vous souhaitez dans ce contexte ?
Ben, je souhaiterais effectivement que les tensions mondiales puissent être apaisées, hein, dans un moment où partout dans le monde, il y a des difficultés, il y a des guerres. Donc je pense à celles et ceux qui subissent les effets de ces guerres, hein, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, sans oublier le peuple israélien, hein, qui a souffert le 7 octobre 2023. Je pense à des conflits qui existent en Afrique et ailleurs. Hein. Voilà, je souhaiterais, de façon un peu naïve probablement, hein, beaucoup plus de sérénité et de paix dans le monde.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ?
Oui, je souhaite une belle, une bonne année aux Floraquaises et aux Floraquais.
Allez, merci Nicolas pour la réalisation de ce reportage réalisé donc vendredi. C'était à l'espace ici au Brac à Florac lors de la cérémonie des vœux. Allez, on est toujours en direct en ce mardi 13 janvier. Anne-Lise Morin, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
J'allais presque dire chez vous, Anne-Lise. On dira quelques mots sur Cinescent tout à l'heure. Bien remis de cet apéro-concert,
ouais,
ce vendredi.
Oui, tout à
oui.
fait.
Oui. Je vois à quoi vous faites allusion, mais c'est pas grave. Donc c'était une belle soirée. Nous, on n'a pas pu y assister. On a vu les préparatifs, l'organisation. Bon, il y aura un autre rendez-vous.
Oui, il y aura un autre rendez-vous au mois de
mai.
En ouverture du Festival des Arts. Et là, non, c'était chouette. Bon. On a eu le public qui était là, malgré le temps et malgré la pluie. Ils ont bravé tout ça pour venir nous voir avec un blind test et deux chanteurs et chanteuses sur cette soirée.
Donc, voilà. Voilà, mais on ne s'inquiétait pas sur la bonne organisation, etc. C'était juste pour avoir un ressenti. On aura l'occasion de parler d'une autre soirée à apéro-concert un petit peu plus tard. Alors, le mois de la danse, on en avait un petit peu échangé déjà au mois de décembre. Donc, il va durer un petit peu plus d'un mois. Hein.
Oui, en fait, ça va durer du 17 janvier au 22 février.
Moi, j'avais 27 février.
27 avec les spectacles, justement.
27 avec les... Ah oui, pardon. 27
je ne veux pas
avec
semer la zizanie, mais
non,
c'est un riche mois de la danse. Alors, c'est vrai que c'est éloquent avec beaucoup de rendez-vous. Alors, peut-être les présenter quand même chaque rendez-vous de manière chronologique, ça permet de rappeler aussi pour les stages, est-ce qu'on peut encore s'inscrire, voilà, avec tous les renseignements pratiques. Hein, donc, premier stage... ce week-end avec de la danse afro contemporaine.
Tout à fait, ça commence dès ce week-end du coup avec Radissar et Patrick Acconi. Donc pour l'instant, pour l'afro contemporain, le samedi et le dimanche c'est complet. Par contre, vous pouvez encore vous inscrire pour le dimanche après-midi, donc de 15h à 18h pour les danses sadingues avec Radissar. Après, on propose aussi à 20h le samedi soir une projection échange du film L'essence de la danse de Germaine Acconi, en présence du coup de son fils Patrick Acconi à la cabane du monde au Rocher de Palmer. Donc ça sera à 20h et c'est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire directement
sûr,
sur Eloasso pour pouvoir gérer le flux de personnes.
Très bien.
Tout à fait. Après, on a le 22 janvier, on a le vernissage de l'exposition Regard sur le verre, qui a lieu à 18h à l'OCAC, en présence des artistes qui vont exposer sur cette exposition. Il y a Christine Bridoux, Léon Brachet de la Valette, Marie de Sèvres, Isabelle Ducat, Alexia Chevrolet et Kamel Gabt. Sur cette exposition, on a en fait une installation autour du verre qui a à voir avec plusieurs danseurs, dont Diane et Neuven, qu'on va retrouver lors du mois de la danse, Radissar aussi. On va avoir Manon Miquel qui a fait aussi du Hills. Donc voilà, on va retrouver ces danseurs sur une installation qu'on a créée pour le vernissage le 22 janvier à l'Office culturel à 18h. Et le week-end en suivant, donc le 24-25, on a le stage de danse classique avec Diane Le Floch et Noven Ridmani qui sont... pour Diane, première danseuse et soliste du ballet de l'Opéra, et de l'Opéra de Bordeaux, pardon.
Opéra national, oui.
Opéra national de Bordeaux,
c'est une belle référence, hein, vous faites bien de le préciser.
Et c'est vrai qu'on a encore des places, donc faut pas hésiter à venir sur Edlo Asso pour vous inscrire. C'est une très belle référence. Ce sont deux artistes vraiment complets qui sont vraiment exigeants, mais malgré tout, une bienveillance incroyable. Ils ont une pédagogie sur la technique, la musicalité et la danse classique très moderne, une vision aussi moderne de cette danse. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de les avoir. Alors, c'est vrai qu'on les a là depuis quelques années, tous les ans, mais c'est toujours pareil. C'est vrai que Diane et Neuven, c'est des personnes qu'il faut pouvoir rencontrer et faire des stages avec eux. C'est vraiment une chance.
On poursuit après le 7 février avec la découverte des danses tahitiennes et des danses orientales. Donc ça sera le samedi. Deux initiations qui sont gratuites, mais qui sont également sur inscription sur Elo Asso pour encore gérer le flux de personnes qui seront présentes.
Et on a déjà pas mal de monde.
Oui, voilà, on a déjà pas mal de monde, donc pensez à vous inscrire, ça va arriver très très vite. Après, on enchaîne le 31 janvier et le 1er février avec la danse Hills et le Hills hybride. Donc le Hills, c'est de la danse en talons. C'est à partir de 16 ans, ça demande une certaine aisance.
Oui, et puis une certaine maturité aussi, c'est important sur la danse Hills, parce que ça reste quand même une danse d'adulte. C'est pas fait pour les enfants, pour les petits. Ça va parler du corps féminin aussi, la manière dont on se tient, la manière dont on assume son corps et qu'on l'aime. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt en direction des ados et des adultes. Et pareil pour les collabs, c'est-à-dire que ce soit le walking ou le dance hall, c'est des esthétiques qui sont plutôt en direction des adultes, ou en tout cas des ados à partir de 16 ans. Faut connaître son corps, même si on l'assume pas, et ça peut aider à assumer son corps. L'idée, c'est vraiment de savoir un peu comment on se positionne, comment on apprend à aimer son corps, comment on apprend à le faire vibrer aussi. Et voilà. Et c'est vrai que Manon a cette pédagogie-là, parce que le Hills, c'est assez particulier, pour amener de la douceur et de la délicatesse dans son stage.
Et ce qu'on peut préciser, c'est que, voilà, c'est bien les précisions que vous avez amenées, bien sûr, à Nice, mais chaque fois, je pourrais reposer la question sur les niveaux. Là, c'est accessible
pour les
débutants.
Fois,
quelqu'un qui veut découvrir...
Tout à fait. En fait, tous les stages qu'on propose, si vous voulez... vous n'avez jamais fait de danse, il y a des cours d'initiation, il y a des cours débutants, et c'est fait pour ça. Alors... Débutant, en général, on est plutôt autour des enfants, surtout avec le classique, mais en tant qu'adulte, on peut aussi le faire. Faut pas avoir peur de se lancer. C'est vrai que c'est des personnes, que ce soit par exemple pour Diane et Neuven, qui vont tout à fait vous mettre à l'aise et qui sont là aussi pour l'écoute, qui vont adapter leur cours en fonction de l'âge des personnes, du niveau des personnes, même sur les débutants. On a eu l'année dernière des adultes, deux, trois adultes qui débutaient la danse classique avec eux, et vraiment elles ont adoré, parce que y a la pédagogie derrière, et pour le Hills c'est pareil, pour l'afro-contemporain c'est pareil, on en discutait avec Radhi, l'idée c'est de se dire on accueille tout le monde sur ces stages pour que les gens puissent danser et se sentir à l'aise. Voilà. À l'aise avec son corps et l'envie de faire. Si on a envie de faire de la danse, il faut y aller. Faut pas se braquer par rapport à ça. Il y a juste pour le hip-hop, qui est le stage du 9 au 13 février, où là, il y a des tranches d'âge, parce que Amandine, elle travaille vraiment avec les enfants. enfants et plutôt ados. Elle travaille peu avec les adultes. Donc là, on est plus sur un stage vraiment éveil, parce qu'elle elle prend les enfants à partir de 4 ans, jusqu'à 11 ans et plus. Mais en tout cas, elle a vraiment cette, ce dynamisme et cette pédagogie avec les enfants. Voilà.
Et après, on clôture du coup le mois de la danse, enfin du moins la partie stage, entre le 19 et le 22 février, avec le stage de K-pop et la venue donc de Jae Kim, une renommée dans le monde de la K-pop, du moins dans la danse, à l'international. Ça aura lieu le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pareil, il y a des stages pour débutants, il y a aussi des stages pour confirmer et aussi des cours chorégraphiques. Voilà, il y a...
Oui. Et après, on va avoir des spectacles. C'est vrai que donc, le mois de la danse, c'est un événement qui est en partenariat. Enfin, c'est la mairie de Senon en partenariat avec l'OCAC et le Rocher de Palmer. Donc, c'est un événement global où, on propose. Enfin, la programmation, elle est faite ensemble. Et c'est ça qui est assez chouette aussi, c'est que l'idée, c'est d'investir tous ensemble, tous les opérateurs qui travaillent autour de la danse sur ce festival-là. Le 29 janvier, on va avoir Le Lièvre et la Tortue, qui est un spectacle jeune public à partir de 7 ans. Ce spectacle-là, il est, c'est, on va dire, un hip-hop. C'est plus du hip-hop, mais qui reprennent de façon imaginaire et de façon un plus dynamique l'idée du Lièvre et de la Tortue. Et c'est à l'espace Simone Signoret. Et puis on a aussi le spectacle Chopin de la compagnie Christine Acid Project au Rocher de Palmer. Ça, c'est le 27 février à 20h30. Et c'est un projet avec lequel on a aussi associé les classes, parce qu'il y a tout un parcours de médiation autour de ce spectacle-là, où il y a des classes qui ont travaillé avec Christine Acid autour de Chopin. Et l'idée, c'est qu'il y ait des petites, une petite représentation de ce qui auront été travaillé autour de ces ateliers avec Christine lors de cette représentation en février.
Voilà. Et enfin, vous pouvez retrouver du coup le programme complet sur le site internet de la ville, aussi sur le site internet de l'OCAC. Vous pouvez aussi être au courant de nos actualités concernant cet événement et tous les autres événements qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Et pour vous inscrire, il faut vous rendre sur Hello Asso, donc en ligne. Il faut taper Office culturel et d'animation de ce nom et vous pourrez directement retrouver les billetteries.
Autrement, vous pouvez nous contacter par mail si vous voulez. S'il y a le moins de soucis, si par exemple vous préférez payer aussi directement, il n'y a pas de problème. Nous, on sera de toute façon présente sur tous les stages et tous les événements, en tout cas, que ce soit le vernissage, les spectacles, ou si vous avez des questions sur les stages, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment inscrire mon enfant, je ne sais pas le niveau qu'elle a ou qu'il a, comment est-ce que je peux les inscrire, faut pas hésiter à nous contacter, soit à nous appeler, soit à nous envoyer un mail à oka@culture-senon.fr.
Le contact direct, c'est toujours sympa, hein. ça permet. En même temps, sur les outils de communication, sur le programme, c'est vrai que tout est détaillé, les horaires, les niveaux, comment s'inscrire, etc. Donc c'est, je présume, c'est diffusé dans tous les lieux de proximité.
On va retrouver ça un peu de partout
de la
dans
ville,
ce nom.
Le Rocher,
c'est ça. Et puis sur les sites aussi, sur le site de la ville, sur le site du Rocher, si vous avez besoin d'infos sur les projets qui se font au Rocher de Palmer, sur notre site internet pour les stages. On en a aussi, il y a des programmes au studio de danse à Nikazu, au gymnase Gilbert Lalanne. Voilà, vous retrouvez un peu les informations de partout sur ce mois-là. C'est vrai que ce qui est important, c'est un travail en commun sur une année par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à travailler ensemble sur un gros projet de danse, sans être spécialiste, mais en tout cas amateur et professionnel de la danse.
Puis il y a de belles références, hein, les personnes avec qui vous travaillez, hein, quand vous me parlez de Radissard ou Amandine.
Oui, Amandine d'Acosta.
Par exemple, là, on sait qu'il y a des compétences, de l'envie, et c'est le réseau. Hein.
Oui, et puis c'est vrai que par exemple, Radhi, elle connaît Patrick Acconi, qui est quand même un grand chorégraphe et pédagogue autour de la danse afro-contemporaine. Alors, sans parler de sa maman qui a travaillé avec Béjar. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire venir sur le territoire de ce nom des personnes qui sont des références dans la danse. Donc, il y a Patrick Acconi, il y a Diane Neuven, il y a Manon Miquel en Hills, Amandine D'Acosta sur le hip-hop. On va retrouver Jay Kim sur la K-pop, qui est un danseur chorégraphe qui a travaillé au studio One Million à Séoul et qui parcourt un peu le monde par rapport à ça. Il propose des stages vraiment partout. Alors, petite information, le stage est en anglais parce que Jay Kim ne parle pas français. Bon. Il parle coréen et anglais, donc faut pas hésiter.
Après la danse, voilà, c'est un art, qui parle presque de lui-même, mais bon,
tout
voilà.
Tout à fait. Et puis il y a des personnes qui sont sur place pour traduire et pour interpréter, bon. Donc il y a aucun souci. Vraiment, l'idée c'est de se faire plaisir et c'est quelqu'un qui a aussi l'habitude de travailler en anglais, de travailler avec des publics internationaux. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une personne qui a une vraie pédagogie autour de la K-pop, parce que la K-pop c'est quelque chose qui vient aussi de toutes les qui réunit plusieurs esthétiques de danse, et donc il a cette sensibilité artistique internationale et cette sensibilité autour de la danse et de faire danser les gens, et c'est quelqu'un qui est assez chouette là-dessus.
Voilà. Très bien. Un dernier mot. Après, on va repartager, bien évidemment, les infos. Je ne sais pas si vous les apportez. Je crois que c'est assez complet ce que vous avez dit.
Oui,
mais
pour
bon.
Le mois de la danse, on a tout. Oui, bon. Les stages ont lieu au gymnase Gilbert Lalanne à la Morlette. Voilà. Il y a des inscriptions qui sont possibles le jour J sur tous les stages, hormis les cours d'afro contemporain, vu qu'on est complet.
Oui, ça c'est vrai que ça commence samedi. Alors le soir, il y a la projection à 20h au Rocher de Palmer, à la cabane du monde, pardon. Et là, il y a encore quelques places, mais ça se remplit vite, parce que la cabane du monde, c'est petit, malgré tout.
C'est accueillant, bienveillant, mais il y a une jauge, bien sûr.
Il y a une jauge,
tout ça,
voilà, tout à fait. Donc voilà, et puis après, il ne faut pas hésiter aussi à venir sur le 22 janvier pour le vernissage de l'exposition. Alors c'est des artistes qui travaillent le verre, mais il y a vraiment cette idée de transversalité entre les arts, entre le verre et la danse, par rapport au fait que quand on crée du verre, on crée aussi par le souffle, on crée par le mouvement, et c'est avec ça qu'on a voulu vraiment faire un parallèle entre la danse et le verre.
Très bien, là comme on risque de déborder, et puis j'ai mon complice Yaminico qui dit « Est-ce qu'on peut dire deux mots sur le programme de Ciné 100 ?»
Ah, oula, c'est à 14h, là on
oui,
va...
Oui, ça c'est bon, 14h au Doradio.
Aujourd'hui, à 14h.
Mais est-ce qu'il y a un programme spécifique ou à minima de manière factuelle rappelé
Vous
Jean-Jacques et Patrick.
Vous me posez une colle.
Non, mais justement, on n'est pas là pour embarrasser. Il y a un rendez-vous à 14h.
Il y a un rendez-vous à 14h.
Il n'y a pas un programme.
En plus, enfin, je ne sais même plus de quoi on parle à 14h.
Bon, de cinéma
c'est
en tout
incroyable.
Cas.
C'est incroyable. De cinéma, c'est
bon,
sûr.
Bon, Jean-Jacques, Patrick, si voilà. Vous nous écoutez.
Oui, ils voilà. Sont là, de toute façon. Voilà. Faut nous écouter, c'est sympa. Hein. On parle de cinéma et de tout ce qu'on fait. Tous les métiers aussi du cinéma. Voilà.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à Annelise.
Avec plaisir. Morin.
Non, mais il y a un petit peu de bonne humeur, mais c'est tant mieux. On a besoin de moments comme ça. Donc vraiment, merci à toutes les deux. On va remercier également, bien sûr, Nicolas à la régie technique. Merci et à la réalisation du reportage qu'on a pu écouter en début de journal. Merci également à Elliot, notre stagiaire en école de journalisme à l'EFJ. Dans quelques minutes, vous allez retrouver les jeunes reporters européens. Et là, j'ai deux infos. On va déborder d'une minute à peine. voilà, pour annoncer nos prochains invités, ainsi qu'un événement dans le cadre de l'agenda culturel. Et bien, vu que j'ai la musique qui m'accompagne, voilà, on va rappeler, on est partenaire de l'Université populaire des Hautes-Garonne, et j'aime le préciser, c'est l'éducation populaire, voilà, des conférences qui sont vraiment ouvertes à toutes et tous. Aujourd'hui, mardi 13 janvier, ce sera une conférence intitulée « Une histoire du portrait dans la peinture ». Denis Favennec sera le conférencier du jour. Il est directeur en histoire de l'art. Rendez-vous salle Condorcet, 12 rue Condorcet, à Lormont à 18h30. Ça démarre vraiment à l'heure. 18h15 pour l'ouverture des portes et ça se termine en général aux alentours de 20h. C'est en accès libre et gratuit, mais si vous voulez les soutenir, bien sûr, on peut adhérer à l'association. Nos prochains rendez-vous demain, mercredi, Philippe Desmond, que vous connaissez certainement, c'est une des voix de radio aussi, voilà, des gens engagés, impliqués, mais c'est en tant que vice-président de l'association Action Jazz qu'on le recevra. Il viendra nous parler du tremplin Action Jazz qui va se dérouler ce samedi Rocher de Palmer. Et vendredi, on aura Johan qui est animateur au phare de Carrier. Le phare, voilà, c'est le nom du centre social et culturel de Carrier. Il sera accompagné de Raven qui lui est animateur à l'association des filles, c'est mutualisé. Et nous parlerons du café IA, intelligence artificielle. Ai-je besoin de préciser? Et un rendez-vous qui aura lieu le 21 janvier, la semaine prochaine, donc au centre social de Carrier, le phare. Allez, dans quelques instants, nos JRE, jeunes reporters européens, mais juste une petite page musicale, une belle page musicale avec Castells qui sera en concert ce vendredi prochain. Voilà, j'ai dit ce vendredi, attention, vendredi prochain dans 10 jours, avec un partage scène avec Émile Londonien, et ce sera pour la troisième soirée de la New French Touch au salon de musique du Rocher de Palmer à ce nom. Allez, on écoute Castells, Winter Blues, et juste en suivant, nos JRE.
Come and help me overcome. I went to blues. That's been lazy. And enjoy it. Écoutez les jeunes reporters européens. Chaque mardi, de 2h30 à 13h, sur E2 Radio.
En partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio E2 sur la fréquence 91.3 FM dans l'émission Jeunes Reporters Européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Nous sommes des volontaires européens à la Maison de l'Europe dans le cadre du Corps européen de solidarité et chaque mardi nous avons l'opportunité d'animer une émission sur Radio E2 sur un sujet qui nous intéresse. Avant de commencer l'émission, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue en cette nouvelle année, car il s'agit de la première émission de 2026. Et aujourd'hui, nous aimerons parler un peu de tout ce qui se passe en Europe l'année dernière et ce qui nous attend cette année dans les domaines de la politique, de la culture, du sport et surtout pour des jeunes. Donc, un petit retour en arrière et un petit aperçu de l'avenir. Avant de commencer, présentons-nous à nouveau. Je suis Karl de l'Allemagne.
Bonjour, je suis Lola et je viens d'Espagne.
Moi, je suis Sarah et je viens d'Autriche.
Bonjour, je m'appelle Ophélia et je viens de Belgique.
Bien, pour lancer l'émission, commençons par un retour en arrière. Quelles belles réalisations ont été accomplies dans vos pays l'année dernière ?
En Autriche, ce n'est pas un vrai accomplissement, je dirais, mais l'année dernière a été particulièrement marquante pour l'Autriche parce que 2025 a été l'année de commémoration. Nous avons célébré trois anniversaires majeurs. D'un côté, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et les 70 ans du traité d'État qui a rendu à l'Autriche sa pleine souveraineté. Et d'un autre côté, les 30 ans de notre adhésion à l'Union européenne. Donc, ces trois anniversaires sont très, très importantes pour l'Autriche.
Et Sarah, et qu'est-ce qui s'est passé avec les élections en 2025?
Oui, on a eu des élections en 2024 et la nouvelle coalition gouvernementale a été investie en mars 2025, suivant les élections de 2024. Et cette coalition est le résultat de débats très, très, très longs et compliqués. Donc, en tant qu'autrichienne, je suis plutôt contente qu'on a un gouvernement maintenant qui a désormais la capacité de lancer des réformes dont on a vraiment besoin.
Et est-ce que le gouvernement président a introduit des nouvelles régulations notables?
Oui, sur les plans environnementaux, l'Autriche a introduit au 1er janvier 2025 un système national de consignes en allemand Pfand pour les bouteilles. Oui, parce que ça existe en Allemagne aussi. Pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium à usage unique. Et les consommateurs payent une consigne de 25 centimes par container qui est remboursée quand ils les retournent vite dans des points de collecte ou via des machines automatiques. Et ce système-là vise à renforcer le recyclage, réduire les déchets et atteindre des objectifs de collecte élevés.
Oui, c'est super.
Oui, franchement, j'adore.
Je crois qu'il y a aussi d'autres pays qui font ça, par exemple l'Allemagne et Danemark. Et aussi, je crois que c'est très bon pour les jeunes parce qu'on ne fait pas que recycler, mais aussi on économise. Et c'est donc nous avons besoin. Et c'est très, très bon.
Oui, et j'aimerais bien avoir ça aussi en Belgique.
Oui, et aussi en Espagne, mais je crois que ce n'est pas possible. Oui. Et aussi, cette année en Espagne, on a eu aussi beaucoup de commémorations, comme en Autriche. Par exemple, cette année, l'Espagne commémore les 50 ans de la fin de la dictature. Et pour faire un petit rappel, le pays avait sous une dictature et de 1939 à 1975, et c'était beaucoup de sang. Et c'était après la guerre civile espagnole. Et oui, pendant des 40 ans, et les libertés politiques étaient limitées, et il était beaucoup d'opposition qui était réprimée, et aussi la démocratie n'existait pas. Et aussi la mort de Franco en 1975, que c'était quand la démocratie a commencé. Et c'était un processus pacifique, mais c'était aussi très difficile parce que c'est beaucoup de choses. Et on a besoin de beaucoup de choses pour faire ça. Et aussi, il avait l'adoption de la Constitution en 1978. Et oui, c'est tout. C'est aussi une occasion pour réfléchir de l'importance de la mémoire historique et aussi de la démocratie, je crois. Et aussi, j'allais oublier, mais il y a aussi une autre chose très importante, que c'est qu'en Espagne, on célèbre, je crois que c'était en 2025, les 40 ans de l'entrée de l'Espagne à l'Union européenne. Et c'est aussi très symbolique.
Oui. Ah, c'est l'Autriche.
Oui.
C'est très intéressant, ça. Pour Belgique, en 2025, on a finalement réussi à créer un gouvernement fédéral parce que les élections, ils étaient en juin 2024. Mais la Belgique, c'est très connu pour prendre son temps pour créer un gouvernement. Dommage. Et donc, après 236 jours de discussion, ils ont finalement réussi. Ça paraît long, mais...
C'est long.
Oui, c'est long. Mais en fait, c'est pas trop long parce que notre record, qui est aussi le record du monde... C'est 541 jours.
Wow. Okay,
c'est très, très long. Donc, en fait, je suis un peu fière que c'est allé si vite. Mais bon, c'est pas très vite, mais bon. Notre premier ministre de maintenant, il s'appelle Bart De Wever, qui est le premier à être un nationaliste flamand. Et on a donc un gouvernement fédéral, mais on n'a pas encore réussi à créer un gouvernement à Bruxelles, qui est très bien pour moi, vu que je viens de Bruxelles. Donc j'espère pour cette année qu'on va réussir à créer un gouvernement à Bruxelles, quand même.
J'espère.
Croise les doigts.
C'est ça. Mais aussi, il faut dire que le nouveau gouvernement a déjà porté beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont pris beaucoup de décisions sur les pensions, les budgets et tout, que les Belges ils n'ont pas du tout aimé. Donc on a eu beaucoup de démons et des grèves déjà.
Oh, wow.
Comme les Français.
Oui, c'est ça.
En Allemagne, nous avons aussi eu des élections fédérales au début de l'année. Un nouveau gouvernement a été formé. Malheureusement, à nouveau, une grande coalition entre la CDU et la SPD. Donc, alors, le seul point positif un peu était le taux de participation élevé, et c'était le plus élevé depuis la réunification de l'Allemagne.
Wow.
Je pense 83%, quelque chose comme ça. Et un autre point positif est que le Deutschland Ticket, c'est un ticket qui permet d'utiliser tous les trains régionaux, les tramways, les bus en toute Allemagne.
Ah, c'est très bien.
Je pense maintenant c'est 60 euros par mois et garanti jusqu'à 2030. Et c'est bien pour l'environnement, bien pour les gens, même si c'est la coûte des plus en plus cher, parce qu'on a commencé avec... Je pense 9 euros pour
9
Corona.
Euros.
Oui, c'était un truc en Corona.
Ah, mais c'est trop bien.
Et dans le domaine sportif, c'est aussi très important qu'on a remporté la médaille d'or en basket. Oui, en
super.
Championnat d'Europe.
Super,
congrats.
Donc, pour élargir un peu la perspective, quelqu'un souhaite s'exprimer la même question sur l'Union européenne. Je sais que le 9 mai était la 77e journée de l'Europe, quelque chose comme ça. Et l'Union européenne, elle a réalisé des grandes avancées l'année dernière.
Ah oui, tout à fait. Il y a il y a beaucoup de domaines qui étaient affectés ou qui étaient touchés par le soutien de l'Union européenne en 2025. Par exemple, dans le domaine de la coopération de frontières, le rapport Schengen a confirmé des progrès concrets. La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint entièrement l'espace Schengen en 2025. On pourrait se demander pourquoi c'est important. C'est un grand succès pour nous, parce que ce développement permet, par exemple, l'élargissement de la libre circulation de personnes. Et en même temps, Schengen n'est pas seulement un espace de liberté, c'est aussi un cadre de coopération, parce que les pays membres travaillent ensemble sur des enjeux essentiels comme la sécurité, la migration, etc.
Oui, c'est très intéressant. Et aussi, en parlant de la Bulgarie, Et à partir du 1er janvier 2026, et la Bulgarie a commencé à utiliser l'euro, qui est un majeur, et c'est un état majeur dans l'intégration dans l'Union européenne, et parce qu'il va simplifier la vie quotidienne, surtout pour les voyages des étudiants et aussi pour le travail à l'étranger. Et aussi, je crois que pour les jeunes, ça permettra d'avoir plusieurs de mobilité, aussi plusieurs d'opportunités. Et oui, et si je ne me trompe pas, Ophélia, tu as passé les fêtes de Noël en Bulgarie.
Oui.
Et est-ce que tout le monde parlait de l'euro là-bas ou pas du tout?
Oui, merci. Alors oui, j'ai passé quelques journées en Bulgarie parce que j'ai une amie qui vit à Sofia. Et oui, Sofia, c'est une très belle ville, j'ai bien aimé. Mais donc, pour répondre à ta question, Lola, donc je suis arrivée, j'ai retiré de l'argent et c'était encore du LEF. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se payaient encore avec du LEF, mais c'était en décembre alors. Et commençant en janvier, ils vont commencer avec l'euro. Mais à partir de février, on ne peut plus utiliser le LEF. Donc, ça veut dire que janvier, c'est une période où ils peuvent payer avec aussi l'euro, mais aussi encore le LEF. Et commençant en février, c'est fini avec le LEF.
Okay. C'est intéressant. Et dans le cadre culturel et sportif, est-ce qu'il y a des choses à mentionner qui se passe en Europe l'année dernière?
Ah oui, bien sûr, comme chaque année, l'Eurovision a été un moment culturel, même si aussi l'événement qui a suscité des débats politiques. En 2025, l'Autriche a remporté le concours avec la chanson Wasted Love de JJ. Mm-hmm. Mais comme toujours, pour le pays qui gagne, cela signifie que l'édition suivante se déroulera sur son propre territoire. Ainsi, l'Eurovision 2026 aura lieu à Vienne, qui a été choisie parmi plusieurs villes autrichiennes. Et cette victoire a été largement célébrée en Autriche, mais elle a aussi relancé des discussions autour de la participation d'Israël au concours. Et dans un entretien, le représentant d'Autriche, JJ, il a exprimé son mécontentement et il a affirmé qu'il aimerait que l'Eurovision à Vienne se déroule sans Israël, en guillemets.
Je comprends. Merci pour cette petite réveillée.
Réponse.
Oui. et malgré toutes ces controverses, nous réécoutons la chanson gagnante de Eurovision. Voici JJ avec Wasted Love. Bonne écoute. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go under. I reach out my hand, but you watch me grow distant, drift out to the sea. Far away in an instant. Nous revoilà, vous écoutez Radio Odur sur la fréquence 91.3 FM dans l'émission Jeunes reporters européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine et on a écouté Wasted Love de JJ. Et Lola, je pense que l'Espagne a aussi dit quelque chose sur quitter l'Eurovision cette année.
Oui, bien sûr, Carl. Et cette année, l'année dernière, en 2025, et l'Espagne a annoncé qu'elle ne participera pas au concours Eurovision 2026 parce que Israël se représente au concours et malgré la guerre. Et c'est pour ça que plusieurs pays ont jugé que ça c'est incompatible avec les valeurs du festival. Et en signe de protestation et aussi de solidarité, l'Espagne a décidé de se retirer. Mais l'Espagne, ce n'est pas le seul pays qui va retirer le concours. C'est aussi les Pays-Bas, l'Irlande, la Slovénie et aussi l'Islande. Et oui, chacun exprimant des raisons similaires, de protestation ou aussi de solidarité. Et c'est pour ça que cette année, l'édition d'Eurovision sera marquée par un contexte politique très particulier et on ne sait pas si quelques pays vont aussi y retirer. On ne sait pas.
Mmh. Oui, j'ai lu aussi récemment que la participation à l'Eurovision cette année, c'est la plus bas. C'était jamais aussi bas que l'année prochaine ou 2026. Donc, c'est assez étonnant. Mmh. Oui. Ou pas étonnant, oui.
On verra si Eurovision aura lieu ou pas.
Oui, c'est ça. Et pour la Belgique, malgré toutes les controverses et toutes les protestations en Belgique, la Belgique a décidé de participer à l'Eurovision. La décision a été faite par RTBF, qui est le TV public de la côté francophone de Belgique. Je vous explique ça parce que chaque année, en fait, nous changeons de la télé publique francophone et néerlandophone. Et vu que l'année avant, on avait un participant qui venait de la côté néerlandophone, cette année, c'est le tour pour les francophones alors.
Ok.
Ok, bien, pour l'Eurovision. Que pouvons-nous attendre sur le plan politique cette année?
Oui, premièrement, Mercosur, c'est un sujet ou un thème qui revient et après de longues tractations, de longs débats, cet accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, ça veut dire le Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, pourrait être signé le 17 janvier au Paraguay par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais cependant, la mobilisation et la colère des agriculteurs, notamment en France, reste vive. Des premiers tracteurs sont entrés dans Paris à l'aube ce mardi pour protester contre ce traité et ses conséquences potentielles pour l'agriculture européenne. Donc ça reste intéressant si cet traité va être signé finalement.
Mm-hmm. Oui, merci Sarah. Et aussi pour parler un peu en général au niveau européen, je pense que cette année, l'Union européenne se concentrera sur la poursuite des discussions sur la défense et la sécurité dans le contexte international instable, vu que l'année a juste commencé, mais il y a déjà beaucoup de tensions internationales.
Oui, tout à fait.
En Allemagne, nous avons 4 élections régionales très importantes. Dans le Baden-Württemberg, le ministre-président Vert ne se représente pas après 3 mandats. Et pour la première fois, les jeunes âges de 16 à 18 peuvent voter. En Nord-Rhein-Westphalie, il s'agit de la stabilité du gouvernement parce que les partis qui forment le gouvernement fédéral c'est un peu en test pour les deux. Et en Saxe-Anhalt et Mecklenburg-Vorpommern, où la AfD, la partie d'extrême droite, attend désormais 38 à 40% des votes. C'est de manière générale, on constate dans toute l'Allemagne une montée alarmante de l'extrême droite, mais cela fait déjà plusieurs années que l'on constate ce phénomène et pourtant rien n'est fait pour y remédier, car les partis de droite et les libéraux s'alignent sur les populistes d'extrême droite afin d'obtenir des voix et dénigre la gauche. Et à propos de ça, nous allons maintenant écouter Schrei nach Liebe de Die Ärzte. une chanson en plus ancienne, mais qui correspond bien à ce que je viens de dire.
Schrei nach Liebe, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Oh, oh, oh. Arschloch! Soll all der Terz unterm Lorbeerkranz mit Eicheln, weiß ich, schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-LP.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Du hast nie gelernt, dich auf die zu kolieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch.
Nous revoilà, vous écoutez Radio O2 sur la fréquence 91.3 FM dans l'émission Jeunes Reporters Européens et en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, et on a écouté Schrei nach Liebe de Die Ärzte. Et on a parlé de qu'est-ce qui se passe cette année en Europe et dans nos pays, et je pense, Ophia, tu as parlé des élections, oui, ou d'une formation du gouvernement à Bruxelles.
Oui, je voudrais juste parler un peu de la, qu'est-ce qui va se passer cette année à Belgique. En tout début, j'espère que la Belgique va réussir à créer un gouvernement à Bruxelles, parce que là, ça commence à créer des problèmes dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment nécessaire. Et sinon, je pense que pour Belgique, le gouvernement de Bart De Wever va continuer à essayer d'implémenter son programme de réformation ambitieuse sur les réductions des déficits, la réforme des pensions et de la sécurité sociale, et aussi des réformes fiscales, la politique migratoire et des autres changements structurels.
Oui, en Autriche, assez similaire, je dirais. Comme j'ai déjà dit, l'Autriche a un nouveau gouvernement et cela, évidemment, ouvre la voie à plusieurs réformes qui sont importantes et prévues pour 2026. L'une d'entre elles concerne la santé et l'égalité. À partir du 1er janvier 2026, la TVA sur les produits menstruels et les moyens de contraception sera supprimée. Donc, je trouve que c'est bien. Jusqu'à présent, des articles comme les tampons, les serviettes hygiéniques, les coûts menstruels, les préservatifs étaient taxés à 10%. Et la suppression de cette taxe va les rendre plus accessibles et moins chers. Oui,
c'est très bien.
C'est bien. Et en dehors de la politique, est-ce qu'il y a des événements sportifs ou culturels notables dans l'Europe?
En Espagne?
Oui, en Espagne, oui, j'ai fait des recherches, oui. J'ai appris que plusieurs événements sportifs internationaux auront lieu. Par exemple, à Valence, il aura les championnats d'Europe de hockey pour les personnes qui sont 21 ans. Hein? Et aussi à Séville, il aura la Coupe du Monde d'Aviron qui accueillera des athlètes de plus de 30 pays. Et je crois que c'est tout en Espagne.
Oui. Et pour Belgique, on est un peu fiers d'annoncer que pour les Jeux olympiques d'hiver à Milan, on a 26 athlètes qui peuvent participer. Pour nous, c'est beaucoup parce que la dernière fois, on avait seulement 7 athlètes. Donc, ça change.
Et les Jeux olympiques à Milan, ça va être intéressant en février.
Oui.
Oui. Vraiment. Et merci beaucoup avec ça. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis aujourd'hui sur Radio O2 dans Jeune Reporter Européen et en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Merci aussi à mes amis Lola, Sarah et Ophélia pour votre réponse. Et on espère que cette émission vous a plu et nous avons pu donner un bon aperçu politique et culturel, sportif, et surtout qu'elle vous a donné envie de vous engager et de découvrir l'Europe. À très bientôt pour une prochaine émission.
Au revoir.
Merci
au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Vous avez écouté les Jeunes Reporters Européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Salut. Ciao.
Tchuss.
Adios.